Tous égaux, tous différents.
Bonjour,
une émission de Natacha Laborde sur La Locale.
Bonjour, je m'appelle Elodie.
Tous égaux, tous différents.
Moi, je crois en Dieu.
Moi, je crois en Yahvé.
Moi, je crois en Allah.
Et moi, je crois en rien.
Tous égaux, tous différents.
Moi, je suis blanc.
Moi, je suis noir.
Moi, je suis jaune.
Moi, je suis café au lait.
Et moi, je suis multicolore.
Tous égaux, tous différents.
Bonjour. Et notre petit haut va troquer sa flûte magique contre une flûte de pan. Et qui fera-t-il danser? Ay caramba, j'hésite. Éliminer les clichés sur le Mexique, ses pyramides, sa tequila. Et les Mexicains? Ces petits hommes à sombrero qui roupillent dans des hamacs sur des ânes ou à l'ombre des cactus. Oui, pourtant, à Mexico, l'une des plus grandes villes du monde avec ses 22 millions d'habitants, l'agitation est telle que le stéréotype associant le Mexicain à un fainéant s'évapore rapidement.
Est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise, en guise, en guise, en guise, en guise de parasol.
Il est vrai que face aux entrepreneurs et conquérants américains, le Mexicain peut sembler passif et fatigué de nature.
Il n'est pas loin de midi d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui ce que j'ai semé.
L'existence est un problème à n'en plus finir. Chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Il vaut mieux dormir.
Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail, mais ça suffirait à pousser un homme au travail.
Un investisseur américain se promène dans un petit village côtier. Un bateau rentre au port, contenant plusieurs poissons. L'Américain félicite le pêcheur sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer.
« Oh, pas très longtemps, » répond le Mexicain. « Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas resté quelques heures de plus en mer ? Pour en attraper plus ? »
Le Mexicain répond que quelques poissons suffisent aux besoins de sa famille. Mais alors, demande l'Américain, vous faites quoi le reste du temps ? Eh bien, le reste du temps, je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Et le soir, je vais au village retrouver mes amis. Nous buvons du vin et faisons de la musique. C'est que j'ai une vie bien remplie. Écoutez, soyons sérieux, dit l'Américain. J'ai un diplôme à l'université de Harvard, un diplôme de commerce, et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec l'argent obtenu, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter d'autres. Et ainsi, vous auriez une flottille de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement à l'usine et même ouvrir votre propre usine. Alors vous pourriez quitter votre petit village pour rejoindre Mexico, voire même Los Angeles ou New York, d'où vous pourriez diriger vos affaires. Le Mexicain demande alors: et tout ça, ça prendrait combien de temps ? Oh, entre 15 et 20 ans. Et après ? Et après, c'est là que ça commence à devenir intéressant. quand ce sera le moment, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions.
Des millions, et après ?
Eh bien après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un joli petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme si c'est toujours d'actualité, et passer vos soirées à boire du bon vin et faire de la musique avec vos amis.
J'ai une soif qui tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de dés.
Je ne vois que des fauchés tout autour de moi, et d'ailleurs ils ont l'air de clichés aussi bien que moi.
Et pourtant j'ai le gosier comme une buvarde, du buvard. Ça m'arrangerait bourrement s'il pouvait le voir.
Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise de parasol.
J'aurais aussi pu rester dans la même tonalité que pour l'Australie et Madagascar et vous parler des peuples opprimés, les Indiens. Je pourrais pointer les richesses abondantes, la forêt, le pétrole, l'hydroélectricité, abondante mais mal répartie. Je pourrais vous raconter les paysans sans terre, les Indiens du Chiapas, menés par le sous-commandant Marcos, le fameux guérillero aux yeux verts, celui qui a dit « Les idées doivent parler plus fort que les balles ». D'ailleurs, vous trouverez un article sur ce sujet dans « Monde Rebelle Junior », un livre pour mieux comprendre les conflits et violences du monde d'aujourd'hui, aux éditions Michelin. Malheureusement, le livre date de 2003.
La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
Je pense que le mieux pour parler de ce héros cagoulé qui a gardé longtemps le mystère de son identité est de lire ce qu'il a écrit sur lui-même. Marcos est gay à San Francisco, noir en Afrique du Sud, asiatique en Europe, chicano à San Isidro, anarchiste en Espagne, palestinien en Israël, indigène dans les rues de San Cristobal, môme d'une bande à Neza, rocker dans la cité universitaire, juif en Allemagne, féministe dans les partis politiques, communiste dans l'après-guerre froide, prisonnier à Cintalapa, pacifiste en Bosnie, Mapuche dans les Andes, artiste sans galerie ni porte-dessin, femme au foyer un samedi soir dans n'importe quelle colonia de n'importe quelle ville de n'importe quel Mexique, guerriero dans le Mexique de la fin du XXe siècle, gréviste, journaliste, bouche-trou dans les pages intérieures, machiste dans un mouvement féministe, femme seule à 22h dans le métro, retraitée qui fait le piqué sur le Zocalo, paysan sans terre, éditeur marginal, ouvrier au chômage, médecin sans cabinet, étudiant non conforme, dissident du néolibéralisme, écrivain sans livre ni lecteur et pour sûr zapatiste dans le sud-est mexicain. Bref, Marcos est un être humain quelconque sur cette planète. Marcos est toutes les minorités rejetées, opprimées, en résistance, qui explosent et disent « Ya basta !» Toutes les minorités au moment de parler et toutes les majorités au moment de se taire et de laisser passer l'orage. Tous les exclus cherchant les mots, leurs mots, ce qui rendra enfin la majorité aux éternels séparés, nous autres. Tout ce qui gêne le pouvoir et les bonnes consciences, voilà ce qu'est Marcos.
Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla, va a ponerse el sombrero de su cuate Pancho Villa.
Pancho Villa cuando viaja necesita dos vagones, uno para sus maletas y otro para sus cañones.
La cucaracha,
ya no puede caminar, porque no tiene lo que le falta. Marihuana que fumar, la cucaracha, la cucaracha.
Et ce sont toujours les mêmes mots qui résonnent à travers le monde. Impuissance, injustice, injustice, impuissance. Sans pour autant raisonner les puissants et les convaincre à partager la terre et ses richesses, comme a tenté en vain de le faire notre fou sage Nasreddin. Bon, j'aurais aussi pu parler du sapotillé, l'arbre à chewing-gum. J'aurais pu axer l'émission sur le maïs, la nourriture de base au Mexique. Une plante à tout faire, y compris de l'éthanol. Le maïs, un épi entouré de légendes et d'histoires avec un grand H. Dans le livre « Les jardins du maïs » chez Hachette Jeunesse, on peut lire des légendes des hommes de maïs.
Apasionado, anda todo alborotado por Voltaire. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura. Yo sé querer. No dejamos hace mil años. Pero se llegó el momento de perder. Y tú tenías mucha razón. Le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver.
Dans ce qui correspondrait à la Bible chez les Mayas, on peut lire que les premiers hommes étaient faits de pâtes de maïs. Mais une autre histoire raconte que ce fameux grain appartenait à la propriétaire de la plus haute montagne qui le tenait bien enfermé dans une grotte impénétrable. Or, un jour, une grande famine s'est répandue et la fourmi, qui était l'amie des hommes, est allée dans la grotte impénétrable et a réussi à ramener quelques grains de maïs. Mais quelques grains ne suffisaient pas. Les hommes ont appelé Dieu de la pluie, celui qui fait pousser toutes choses. Seul, il ne pouvait rien faire. Il a appelé à lui le Dieu du tonnerre. Et celui-ci a eu l'idée de dépêcher un oiseau pic pour trouver la faille dans la montagne. Et l'oiseau l'a trouvé. Alors le dieu tonnerre a envoyé un éclair pile poil au bon endroit et la montagne a cédé, libérant son trésor de grains sacrés. On dit que c'est depuis ce jour-là que l'oiseau pic a été brûlé et qu'il a une calotte rouge au sommet de la tête. On dit aussi que le grain de maïs qui était naturellement blanc a pris des couleurs brûlées par le feu du ciel. C'est pour ça que certains grains sont jaunes, d'autres rouge-orangés et d'autres même noirs. Les terriens ont semé les grains avec beaucoup de soin, en ont gardé une partie pour l'année suivante et ont mangé le reste. Mais un jour, une femme leur est apparue comme la propriétaire initiale du grain. Elle leur a dit « J'espère que vous ne m'oublierez pas et que vous me ferez beaucoup d'offrandes. » Effectivement,
Les Mayas et autres peuples de l'Amérique centrale vivaient essentiellement du maïs et étaient très religieux. Cela explique les offrandes, les danses sacrées et même les sacrifices. Des sacrifices humains pour se faire pardonner leur défrichement par la terre mère, pour attirer la bienveillance de la pluie, pour que le gardien des cultures chasse les vers et les oiseaux, pour que les grains soient protégés de l'ardeur du soleil. La civilisation maya a brutalement décliné et presque disparu vers l'an 900, sans doute suite à l'appauvrissement des sols ou par la faute d'un insecte suceur de sève qui aurait anéanti les cultures de maïs et provoqué la disette.
Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero sí llegué a Tijuana de puritos aventones. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina.
Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verán cómo me fue. Llegué a Santa Ana con las patas bien peladas, los huaraches que llevaba se acabaron de volada, el sombrero y la camisa los perdí en la correteada que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaba. Me salí a la carretera muerto de hambre y desvelado, me subí en un tren carguero que venía de Colorado y con rumbo a San Francisco de un vagón me fui colado, pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron. Dijeron los gabachos, te regresas pa' tu rancho, pero yo sentí muy gacho regresar pa' mi terruño. Terracero fracasado, sin dinero y sin hilacho. Terracero fracasado, sin dinero y sin hilacho. Terracero fracasado,
sin dinero y sin hilacho.
Finalement, je vais vous parler d'une fête joyeuse au Mexique, la fête des morts. Chez les Mexicains, la mort n'engendre pas forcément des idées tristes. On aime faire la fête des morts est l'occasion de se retrouver une fois par an, en famille, vivant ou mort. Ça se passe comme chez nous, le 2 novembre. Et ce jour-là, certaines boulangeries affichent ici, véritable pain des morts. On s'offre des brioches en forme de tibia ou de tête de mort. On envoie à ceux qu'on aime un petit cercueil en sucre sur lequel on a fait écrire leur prénom en signe d'affection. Dans les maisons, on dresse une grande table sur laquelle on entasse offrandes et victuailles autour des photos des disparus. Fleurs porte-bonheur, cierges allumés, têtes de mort en sucre ou en chocolat, fruits, pain des morts, bonbons, nourriture appréciée par le défunt, boissons, tabac, poterie, ainsi que des objets personnels lui ayant appartenu, cigares, guitares, instruments de travail. Toute la nourriture sera consommée dans la nuit du 2 novembre. Dans les petites villes et les campagnes, la famille se réunit au cimetière, sur les tombes, éclairé par des bougies qui brûlent toute la nuit pour guider les âmes vers les proches qui les attendent. on commence par nettoyer la tombe avec balai et plumeau pour qu'elle devienne une table de banquet. Et on mange toute la nuit au son des pétards et des cloches. Les bouteilles de soda et d'alcool circulent au souvenir des disparus. Et on s'échange les têtes de mort, un sucre ou un chocolat. À l'aube, quand les morts ont bien entamé le banquet, les vivants mangent les restes et s'endorment sur place. Cette nuit-là, aucun prêtre n'est admis à pénétrer dans le cimetière, car il s'agit d'une fête païenne. Un enfant raconte qu'il tient compagnie à son petit frère qui est sous la terre et qu'il va rester là toute la nuit. Au matin, il ouvrira son petit paquet enveloppé dans du papier journal et qui contient des frijoles, les haricots noirs, qu'ils mangeront ensemble. Cet enfant n'est pas triste, il accomplit un rite familier. Dans ce pays, la mortalité infantile est considérable, surtout chez les Indiens, et la mort d'un enfant est souvent un événement heureux. Il devient un petit ange qui, de là-haut, veille sur eux. Voilà, c'est peut-être un exemple à suivre pour celles ou ceux d'entre vous qui auraient une tristesse en cours. Et bien sur cette note drôlement triste, je vous souhaite une bonne fin de mois de mai et vous donne rendez-vous en juin pour une visite en Jamaïque et au Japon. À bientôt.
Vous me retrouverez chaque premier et troisième mardi du mois à 18h. Et l'émission sera rediffusée ces mêmes semaines, chaque vendredi à 8h. Et si vous êtes curieux, bienvenue sur mon site www.conteuse-en-marche.fr. À la prochaine fois. See you.